Là déjà je vais ranger un peu.
Donc travail.
Une guitare par exemple qui avait un manche qui était cassé.
C'est la tête en fait en tombant qui s'est ouverte. Donc il y avait une grosse réparation de collage à faire.
Jour numéro 4. Mon luthier avait beau être au petit soin pour moi, il s'occupait aussi d'autres guitares en parallèle. J'en apprenais tous les jours sur son métier. La patience que ça requiert, la précision, la rigueur aussi. Et par-dessus tout, j'adorais la passion de Sylvain pour le partage. Sa joie de transmettre. Jean-Baptiste et moi, on se lassait pas de l'écouter.
Bon là, le but, c'était quand même de... Déjà, première chose, de réparer cette fameuse cassure.
Ouais.
Et de rendre la guitare plus jouable qu'elle l'était finalement au départ. Il y avait quelques petits défauts de réglage, des hauteurs de scié qui étaient différentes, le calibrage du fretage qui était pas bon. Je suis passé par plusieurs étapes que j'expliquerai au client. Là, les choses en l'occurrence, c'était une planimétrie. Donc rendre les frettes toutes à la même hauteur, avec un polissage réarrondi, qu'il n'y ait plus une espèce de petite morsure qui apparaissent dans le temps avec l'appui des cordes. Donc ça, je les ai fait disparaître. J'ai nourri la touche, qui n'avait pas été nourrie depuis très longtemps. J'ai recalibré donc le scié qui se trouve sur la partie chevalet. Donc c'est, le chevalet, c'est la pièce qui est sur la table, qui tient les cordes, sur lequel se trouve une autre petite pièce qui s'appelle le scié de chevalet, que j'ai mis à une certaine hauteur, parce qu'il était trop haut, donc je l'ai rabaissé un petit peu. J'ai retendu le manche le plus droit possible pour faire le réglage. Donc j'ai fini l'instrument hier. Je l'ai mis de côté. Et là, avant que cette personne vienne la chercher, je fais une dernière vérification. Là, elle est restée 24 heures sans que j'y touche. Donc là, je vais prendre un accordeur. Vérifier si l'accordage va bouger ou pas déjà. Tu vois déjà, il y a un petit bruit au niveau du scié que je vais corriger tout de suite. Donc je l'élargis un tout petit peu. Sa profondeur, je n'y touche pas. Donc j'ai des limes spéciales pour ça. Voilà, je remets. J'en profite pour faire la précédente parce que on sent moins, mais j'ai senti un peu le même phénomène quand je l'ai fermé. Donc il y a 6 cordes sur une guitare, là c'est les 2 cordes du centre, la corde de ré à vide et la corde de sol. Voilà, je les remets dans leur rigole. J'ai fait. Tout le réglage que j'ai fait, en fait, il n'a pas bougé. La guitare, elle est comme hier, le manche est nickel, la cassure, voilà, elle est jouable.
Et oui, elle était prête à revenir chez son propriétaire, elle. Pour moi, C'était loin d'être fini. Je me souviens que j'avais pensé « J'ai la gratte qui se dilate, j'ai le bois qui est pas droit, et mon manche qui me démange, et mes frettes sont pas nettes, et la touche. » Bah, la touche, elle a besoin d'une bonne douche.
J'ai nettoyé la touche. En surface, j'ai enlevé la crasse avec une petite lame. Ensuite, avec, dans la fibre du bois, là, tu vois, j'ai passé un petit peu de laine d'acier pour ouvrir le port du bois. Et maintenant que c'est ouvert, je viens mettre un petit adhésif sur chacune des touches pour protéger le bois et laisser la frette apparente. Une fois que la frette est apparente et qu'il reste qu'elle, je vais la marquer et ensuite je vais utiliser tout un jeu d'outils pour faire ce qu'on appelle une planimétrie. Donc en fait, je vais venir réguler la hauteur de chacune des frettes pour qu'elles soient toutes exactement à la même hauteur. Une fois que la surface est faite, je vais réarrondir la frette, travailler les bords de la frette et ensuite faire tout le système de polissage pour, comme si tu venais d'acheter ta guitare, les frettes, elles vont être sorties d'usine. Hein.
J'espérais vraiment que personne n'était en train de me mater. J'avais l'impression d'être chez la manucure. On allait me limer les frettes. La honte.
Là, j'ai que le frettage qui est apparent et j'ai juste marqué mes frettes avec un marqueur. Et là, je vais passer une lime qui est au diamant, donc c'est un grain très très fin qui va me permettre de passer sur les frettes. Je vais faire un premier marquage qui va du bas vers le haut et l'inverse sur la corde de mi virtuellement, puisqu'il n'y a pas de corde sur l'instrument. Et je remonte jusqu'au grave, jusqu'au mi-grave. Voilà. Là, on s'aperçoit des défauts de l'instrument. Tu vois, il reste du noir à certains endroits. Logiquement, on devrait avoir du blanc partout, là. Ça veut dire que là, en passant ma cale, je touche pas. Et tu te souviens qu'ici, quand on faisait une note,
c'était la même entre les deux cases.
Voilà, exactement. Normalement, je devrais avoir.
Oui.
Parce que comme la frette est enfoncée par rapport aux deux dernières, les deux dernières sont trop hautes. Donc du coup, on entend le son quand tu es ici et ici de cette case.
On entend le son de la case au-dessus. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y avait deux cases qui sonnaient à la même hauteur.
Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur une seule frette, pouvoir la gratter en hauteur,
ouais,
et lui permettre de redescendre un petit peu pour qu'on ait le même apport.
D'accord.
Là, en l'occurrence, on a deux frettes trop hautes. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est les refrapper, prendre une cale, un petit maillet, qui me sert habituellement à enfoncer les frettes sur un manche. Donc là, je prends le même matériel que si je faisais un frettage. Donc, il a une particularité, celui-ci, c'est qu'il a un côté en métal et un côté en nylon. Donc là, je vais taper sur ma cale qui est en aluminium. Donc je vais taper avec la partie nylon.
D'accord.
Et là, on va remarquer cette partie.
Avec le même marqueur que tout à l'heure, voilà. Et tu vas réessayer de limer.
Et là, je vais reposer ma lime dessus. Et là, on s'aperçoit que ça n'a absolument rien changé.
Ouais.
Donc c'est elle qui est trop enfoncée à la base.
D'accord.
D'accord. Donc soit on la ressort et on la réenfonce, soit on lime plus ces deux frettes-là. Là, en fait, il faut vraiment ajuster notre travail pour qu'on soit parfait. Ok. Et voilà. Le marquage.
Ah, ça commence, le noir commence à partir, donc ça veut dire qu'elles sont presque au même niveau, quoi.
Voilà, et tu fais ça jusqu'à obtenir
le blanc complet.
Donc tu vois, c'est une opération qui est un peu longue. Là.
Donc là, tu fais avec une lime plus forte.
Voilà.
Alors, et tu vas affiner avec
le grain de mes limes.
Ouais.
Donc j'en ai une première comme ça pour dégrossir. Après, j'en utilise une deuxième.
Pendant que ça lime, j'en profite pour vous dire que nous, les grattes, on se souvient de chaque musicien qui a joué sur nous, chaque main, chaque style. La mémoire du bois. On a ça dans les veines. Je me souviens, par exemple, des expérimentations de ouf d'Alexis. Alexis, je vous rappelle, c'était mon propriétaire avant Jean-Baptiste. Et Alexis, il connaissait Tam, mon propriétaire d'encore avant. Vous me suivez ?
Tout ce qui me manquait pour faire la musique que j'avais envie d'écouter, c'était une guitare électrique. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec une guitare normale ou avec n'importe quel autre instrument qu'on ne peut faire qu'avec une guitare électrique. Les cordes qui étaient sur la guitare électrique étaient aussi en acier, mais elles étaient très usées. Donc j'avais envie de nouvelles cordes. J'ai pris celle-là, ça allait. Moi, je voyais vraiment pas le problème. Hein. Et le son qui était fait avec, moi, ça me convenait complètement. De toute façon, le son que je fais, moi, j'utilise rarement très propre. Il est toujours très déformé, trituré dans tous les sens. Donc voilà, je suis pas du tout un puriste de la guitare électrique.
Suspense.
Celle-ci encore un peu haute. Celle-ci elle est un peu basse.
Ouais, pas... mais ça change ouais, non, pas mais... mal hein, quand même sur la troisième.
Ah, regarde hein. Là, je vais y arriver. Hein.
C'est Tam qui me l'a vendu pour 100 €. On marchait dans la rue un jour et puis il m'a dit je me sers plus de ma guitare. Je pense que ça te fait plaisir parce que je crois que je l'avais essayé. Il m'a dit je te la vends pour 100 €. Ça me fait plaisir. Moi je trouvais que c'était vraiment pas cher. Et c'était la première fois que j'avais une guitare électrique. Donc j'étais content. Je l'ai acheté. Voilà. C'était autour de 2004, je pense, à Paris.
Ah, attends, je vais la remarquer cette fois.
Et hop, confidence pour confidence, Sylvain était reparti à raconter ses débuts dans le métier.
Christophe avait le magasin, Christophe est parti et moi j'ai repris le magasin en 2000. Quand on a repris le magasin, je voulais pas des pianos, je voulais pas des batteries, je voulais faire que de la gratte. Moi. J'ai développé guitare plus quoi. J'ai choisi les guitares que j'avais dans mon magasin. Je sais pas, j'avais peut-être 150 guitares au mur, de toutes marques confondues. Hein. Et j'essayais de trouver des modèles dans des gammes de prix différentes qui puissent convenir à tout à chacun. En fait. Le principe d'essayer tout et rien. Parce que moi, j'avais que de très bonnes guitares, personnellement. J'avais la Steve Lukather, les Van Allen, tout ça, c'était des grattes haut de gamme extraordinaires. Mon travail, c'était de vendre des instruments de toute gamme qui soient corrects pour les gens. En plus, j'étais régleur d'instruments, puisque c'était la première chose pour laquelle j'ai pris ce magasin, c'était faire du réglage. Par exemple, l'été, tu partais jouer de la folk sur le bord de la plage, tu n'avais pas besoin d'une folk à 3000 balles. Tu prenais une merde, si tu la pètes, tu n'en as rien à foutre, même si limite elle brûle avec les merguez, c'est pas très grave, tu vois ce que je veux dire. C'est ta guitare d'été. T'as envie de t'amuser avec. Mais même ça, je les choisissais, c'était des grattes qu'on vendait 150 € avec la housse, le réglage, le jeu de cordes, les médiateurs, il y avait tout avec quoi. Tu vois, donc c'est une merde. Faut être clair. Et ben même là, j'essayais plusieurs gammes. Et en dessous d'une certaine gamme, je le faisais pas. Si tu descends trop, c'est même plus une guitare. La gratte, elle est tellement mal fabriquée qu'elle peut pas sonner en fait. Donc j'essayais de trouver une guitare où il y avait énormément de paramètres qui étaient présents et respectés, sauf que le réglage final, c'était n'importe quoi. Donc quand les guitares elles arrivaient, je les commandais par 12 hein, quand même. Hein. Les guitares elles arrivaient, j'enlevais les cordes de toutes les guitares, je faisais les planifs, je réglais les sillets, la gratte je la refaisais. Et en fait j'offrais ma qualité de régleur sur un instrument qui n'était pas digne de ce nom, mais ça m'a valu de proposer des instruments qui étaient vendus ailleurs, et quand les gens ils venaient les essayer chez moi, les guitares elles sonnaient quoi. Donc en fait j'ai eu énormément de travail rapidement, je réglais les guitares, et puis bah voilà, c'est ma réputation s'est faite un peu comme ça. Tu en veux un café ?
Ouais, je veux bien. Si t'avais pas fait ça, t'aurais pas pu passer du magasin à un atelier de lutherie ?
Alors en fait ça s'est fait pendant. Je faisais les réglages, j'avais envie de faire d'autres choses. Et puis, j'avais travaillé avec un luthier qui avait déménagé. Donc, en fait, je me retrouvais un petit peu tout seul. Donc, je cherchais d'autres luthiers pour leur donner les travaux que j'avais à faire, que moi, je ne savais pas faire. Hein. Je ne fabriquais pas mes guitares. Mais j'avais envie de le faire. Et en fait, tout est tombé un peu à la même période. C'est-à-dire, j'ai commencé à fabriquer... Et je me suis retrouvé à aller au Canada pour une visite d'une société de fabrication de guitares. Et là, j'ai vu tout le process de fabrication. Ça m'a plu, j'ai adoré ça. Moi, j'adore l'industrie.
J'avoue que le coup de la guitare qui finit au barbecue, ça m'avait fait un peu flipper. Heureusement que je ne suis pas une guitare d'été. Je ne suis pas non plus une guitare de légende, hein, je suis bien d'accord. Mais je fais de mon mieux.
Est-ce que t'as soif ? Ou envie de manger un petit morceau ?
J'ai pas soif, mais par contre, j'aimerais bien manger un petit morceau.
J'ai fait un cake au citron.
Allez, Sylvain.
Je m'étais dit, à tous les coups, ils reviennent plus. La journée est pliée. Et de fait, j'étais à nouveau tranquille dans l'atelier. Comme la veille au soir. Songeuse. Je songeais, oui, que la Gibson SG avait séduit des artistes de renom. En France, Jean-Jacques Goldman, Louis Bertignac, Paul Persson, Jean-Louis Aubert. Et puis aussi des stars internationales. Eric Clapton, Kurt Cobain, George Harrison, Jimi Hendrix, Mike Oldfield, les guitaristes des Doors, de U2, de The Who, des Smashing Pumpkins, des Grateful Dead. Certains d'entre eux jouaient même sur le modèle verni en rouge cerise, comme le mien. Le fameux « cherry finish », comme disent les anglophones.
Ça va, SG ? T'as l'air un peu à côté de ta plaque.
Très drôle. Mais t'inquiète, hein. Sylvain, il va bientôt me la remettre, ma plaque.
Oh, bah, ça m'étonnerait, hein. Il a quelques citrons.
Et toi, mini-moi, ça va ? T'as un truc à me demander ou quoi ? T'es là, avec la touche en cœur.
Pas à te demander, à t'apprendre. SG, hey, SG, devine quoi ?
Je sais pas, tu pars en tournée ?
Mieux que ça.
Tu vas aller sur scène ?
Oui, oui, oui. Mais, oh, mieux que ça encore.
T'as encore perdu du poids ?
Bah, très drôle.
Bon, je donne ma corde au chat.
Je vais partager l'affiche aux côtés de la Stratocaster 61.
Ah ouais ? Mais comment ça se fait ? Raconte.
Bah, Jean-Louis Aubert m'a essayé et il me veut pour son prochain concert.
Waouh, trop de chance !
Non, mais tu te rends compte ? Oh, ça y est, je vais aller sur scène ou je vais aller sur
ouais,
scène ?
Ouais, bah, j'ai compris, c'est classe, ouais, je viendrai jouer les groupies.
SG, t'es lourde là.
Oui, bah, je sais, à côté de toi.